Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous avons autour de la table Joël Miachon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président des Nouvelles du Comte de Bourdeaux.
Oui.
Et aussi Johannes Melsen.
Bonjour.
Bonjour. Et vous êtes directeur artistique, toujours des Nouvelles du Comte de Bourdeaux, et aussi chef de projet pour le chemin des Huguenots.
C'est ça.
Alors, vous êtes ici tous les deux pour nous présenter pour le week-end du 19 au 22, hein, c'est un week-end d'ailleurs.
Jeudi à dimanche.
Autour de la voie d'exil, ou des voies d'exil plutôt, hein, au pluriel.
Donc là, ça se situe effectivement autour de là où les voies d'exil des Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes. Comme ça, ça se situe dans l'histoire, mais en même temps, ça se situe dans l'actualité, parce que bien évidemment, si l'exil des Huguenots a 300 ans et plus, l'exil est toujours là, et malheureusement, sur les mêmes dynamiques. Donc là, l'idée est entre Livron, Beaufort, la vallée de la Gervanne, la vallée de la Drôme, la forêt de Soult, le pays de Bourdeaux, le château du Poitcellard, Dieu le Fit et Poitlaval, donc sur un territoire, comme vous disiez, très large, d'aborder plusieurs entrées qui permettent... Nous ne sommes pas encore vraiment en fin de saison de randonnée, parce que les beaux jours d'octobre sont toujours là, mais où petit à petit, on avance quand même vers l'hiver et que du coup... Une réflexion peut aussi être utile, une réflexion qui, à côté de la randonnée, parce qu'il y a des propositions de petites randonnées, permettent d'élargir un peu le débat, le sujet des voies d'exil en Europe aujourd'hui.
Oui, alors autour de ces voies d'exil, vous proposez des randonnées, des conférences, des expositions et des spectacles. Alors on va commencer déjà dans l'ordre, hein, tout simplement. Donc les randonnées, elles seront certainement liées au circuit des chemins.
Alors, les randonnées, il y en a une, enfin la première a lieu dans la forêt de Soult, le vendredi 20 octobre, à partir de l'accueil est à 17h à l'auberge des Dauphins, donc au milieu de la forêt. Et il y a là une randonnée qu'on a intitulée « Entre chien et loup » et qui part de l'auberge des Dauphins, qui va se retrouver au camp de l'Éternel, qui était un lieu de rassemblement des Huguenots au fond de la forêt. Et là, il s'agit de faire ressentir un peu aux gens qui se sont inscrits pour cette randonnée et de leur faire ressentir un petit peu ce moment où on va essayer de se retrouver caché pour partager des convictions. Voilà.
Avant de continuer, juste pour moi, pour ma culture générale, est-ce qu'on peut définir ce qu'étaient les Huguenots ?
Les Huguenots, au départ, c'était une injure, en fait. Donc, on se retrouve là... autour de l'édit de Nantes et sa révocation, donc autour des guerres de religion aussi, donc 16e, 17e, les protestants et les catholiques s'affrontent et les Huguenots, on les nomme ceux qui collaborent en quelque sorte avec les Suisses, parce que plusieurs cantons suisses adhèrent à la réforme, donc se sont organisés comme tel, et les Français qui fuient vers la Suisse, vers l'Allemagne, en fait qui fuient vers les cantons protestants ou vers les pays où l'accueil des protestants est assuré, ben, on les appelle les Huguenots. Ça vient du coup du mot suisse-allemand et allemand, Eidgenoss, les confédérés. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est une injure de dire ben, c'est ceux qui fricotent avec les Suisses.
Autour de cette randonnée, il y a un petit aperçu qui cite Marie Durand. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'elle un peu et pourquoi cet intérêt pour ce personnage ?
En fait, sur la rando entre chien et loup, L'idée, comme disait Joël, de marcher de nuit avec des petites lampes, ça donne une ambiance de aller vers ce lieu de rassemblement qui est le lieu des Huguenots, le lieu dit, en plein milieu de la forêt. Et puis, dans ce lieu, sous cette roche qui abrite un peu, c'est finalement ça, c'est une très grande falaise qui surplombe un peu, qui abrite un minimum de l'eau, mais à côté, il y a les petites installations troglodytes. Donc, c'est quand même un petit campement, c'est quand même posé comme lieu d'évoquer là deux textes où on aborde deux femmes qui ont joué un rôle important dans cette histoire de la réforme, que ce soit Isabeau Vincent, la petite prêtresse ou la petite prophétesse plutôt pour le sou, donc une petite bergère qui à un moment donné se met à essayer de rassembler les siens autour d'une parole entendue, entre guillemets. Et puis Marie Durand qui sort d'un milieu social tout différent, qui n'est pas bergère, loin de là, qui est une intellectuelle, fille de pasteur, sœur de pasteur, mariée à un pasteur probablement, qui donc, à un moment donné, où son seul crime était justement qu'elle était fille et sœur de gens qui étaient impliqués dans cette réforme, et que les autorités décident d'enfermer à Aigues Mortes dans la tour de Constance, où finalement elle reste quasiment 40 ans, et elle meurt d'ailleurs assez rapidement après qu'on la relâche au bout de tout ce temps. C'est une femme qui du coup a beaucoup écrit, qui a beaucoup aidé les autres prisonnières, la tour des femmes, mais oui, qui le crime était d'appartenir même de façon éloignée ou de façon parentée à cette approche de la réforme. L'idée du coup est de ces deux femmes de vraiment se dire, ben voilà, l'histoire des Huguenots et son exil, c'est souvent, d'ailleurs les exils dans un premier temps, c'est souvent un exil d'hommes. Aujourd'hui aussi, les hommes viennent, oui. Et le regroupement familial, c'est pour après. Dans le temps aussi, bien évidemment, le danger, la vérification, le lieu d'accueil, c'est une histoire d'hommes. Et puis on se dit, à force qu'on parle des hommes, donnons aussi la parole à ces femmes. Et d'ailleurs, le texte finit sur un hommage à Simone Veil.
Je reviens un peu sur cette randonnée. Il faudra quand même prévoir un minimum de matériel, hein, des chaussures de marche, oui, je pense. Oui. Mais c'est bien de préciser.
Même s'il n'y a que 20 minutes et une demi-heure de marche. Oui, la petite lampe, la petite laine ou un peu plus selon la température du moment. Et puis, effectivement, des chaussures convenables, hein, pas venir en tongs, quoi, parce que ça va pas. Mais enfin, je crois que la température obligera à une tenue convenable.
Et je reviens quand même sur ce périple autour de la randonnée entre chiens et loups. Est-ce que c'est quelque chose d'ancestral, ce lieu, que vous appelez le camp de l'Éternel ? Comment c'est...
En fait, le camp de l'Éternel dans la forêt de Soult était le lieu de regroupement de tous les seigneurs et de tous les impliqués plus ou moins militarisés qui se cachaient dans la forêt de Soult et faisaient à partir de là un nombre d'actions qu'aujourd'hui on appellerait guérilla, mais en fait c'était une guerre de guérilla entre une minorité huguenote et une majorité catholique qui était largement mieux équipée, largement plus nombreux. Mais dans ces petits pays, d'ailleurs, on retrouve la même approche en Cévennes avec la guerre des Camisards, c'est le même topo. Donc ces gens-là se cachaient là et faisaient à partir de là des exactions. Et d'ailleurs, à un moment donné, entre Soult et le pays de Bordeaux, c'est pas bien loin, mais à un moment donné, il y a un affrontement violent entre les dragons, donc ces soldats du roi, et un groupe important de ces seigneurs et soldats, entre guillemets, huguenots, et ça se passe dans le champ des Bourrelles, où très vite, ça fait 100 morts, quoi. C'est, pour le temps, c'est important.
Et les conditions de vie de ces huguenots qui étaient dans la forêt de Soult, comment se substantaient-ils ?
En fait, c'est comme tout groupe minoritaire qui, à un moment donné, se retrouve à devoir se cacher. Il est soutenu par la population locale. On retrouve là à chaque fois la même dynamique. C'est, si le lieu a été choisi là, c'est que, un, la forêt de Soue est une très grande forêt et ne pouvait être qu'encore plus grande dans le temps. Deux, qu'elle était en plein milieu du territoire où ils agissaient, parce que ça allait de Chabeuil, Valence, ça allait assez loin quand même. Trois, dans un pays qui était maîtrisé, qui était connu et où il y avait énormément de sympathisants. Donc là où il y a sympathisants, on retrouve les mêmes dynamiques, ne serait-ce qu'en 45. 40-45.
En sachant que le territoire de la forêt de Soue était habité jusqu'à 120 personnes, dans plusieurs hameaux, dont il y a encore des ruines, et avec des gens qui pratiquaient l'agriculture, donc qui pouvaient effectivement nourrir, et beaucoup d'élevage aussi. Hein. Voilà, et la forêt qui était sans doute moins forestière qu'actuellement, parce qu'avec plus d'élevage. Voilà. Mais bon, qu'importe. Donc, ils avaient de quoi se nourrir. Ils avaient des appuis locaux.
Toujours autour du 20 octobre, hein, on va parcourir comme ça, hein, un petit peu dans un chemin un peu égaré, tous les lieux différents qu'il y aura. Mais on va continuer sur Soue et on va parler de cette carte blanche à Eric Longworth. Alors, qui aura lieu dans l'église de Soue, c'est ça?
Oui, au retour de la randonnée. Tous les gens qui le souhaitent se retrouvent dans l'église, plus d'autres qui viendront peut-être que pour ce concert-là, à condition de s'inscrire d'abord, hein, auprès des offices de tourisme. D'ailleurs, pour toutes les activités de nos 4 jours, là, il faut prévenir les offices de tourisme pour le nombre de personnes étant parfois limité.
Lesquels voilà. Offices seront concernés?
Diolfi, Soue, Bordeaux, Cray,
Livron.
Et Livron.
Pas dit, hein, non. Il n'y a pas de...
Non, là, on est sur les offices de tourisme directement liés aux intercommunalités qui les portent.
Et donc,
alors donc, Eric Longsfort vient donner un concert dans l'église. Alors, il faut situer un petit peu les choses. C'est un violoncelliste d'origine américaine qui a fait 400 kilomètres sur le chemin, sur les pas des Huguenots, en 2016. Voilà. Tu précises un petit peu.
Avec son violoncelle sur le dos. Et tous les soirs, il a offert un concert. Et tous les soirs, il a essayé de susciter des rencontres avec des musiciens et tous les autres, bien sûr. Mais à chaque fois qu'il y avait des musiciens de renom ou des musiciens amateurs, ça a donné un petit bœuf. Et l'idée serait qu'avec sa carte blanche, il essaye de reconstituer pendant une heure un groupe de gens qu'il a rencontrés pendant cette randonnée et qu'il avait envie de revoir et de nous les faire connaître.
Ses inspirations, puisqu'il est compositeur, est-ce de quel ordre au niveau musical on pourrait dire que le style de musique qu'il compose?
Je pense que si je croise Eric Longsworth sur un style, il va mal le prendre, parce qu'il reste extrêmement hétéroclite.
Oui.
Mais son entrée en la matière au départ était quand même que, étant américain avec des parents donc réformés, il avait été en contact avec les hymnes et avec tous les chants religieux, qu'en tant que violoncelliste, il a essayé de retranscrire et de moderniser. Et donc, du coup, au moment où il a marché sur le chemin, bien évidemment, très souvent aussi, les croyants comme les non-croyants étaient touchés par cette approche. Donc là aussi, le public était très large et très, très différent. Il a pu rencontrer parmi les paroissiens parfois des gens qui ont pu lui aider à retrouver des vieux psaumes, voire des vieilles partitions. Ce qui fait qu'en faisant ces 400 kilomètres, à la fin, il avait une matière de création qui fera probablement à terme un disque d'inspiration un peu plus spirituel, religieux que ce qu'il a l'habitude de faire. Thank you.
Et puis pour terminer cette journée du 20 octobre, donc à la salle des fêtes, il y aura la soupe des exilés, hein, avec un tarif de 10 euros.
Dessous, oui, voilà. Qui est celle-ci, non pas offerte, mais payante, hein, 10 euros. En fait, c'est une initiative que nous avons depuis le début de Voix d'Exil, hein, donc depuis 2011. C'est une initiative de bénévoles des Nouvelles du Comte, puisque nous sommes partie prenante de toute façon depuis le début. Et cela nous permet un moment de rencontre, hein, autour d'une soupe que nous fabriquons. Artisanalement, que les bénévoles vont préparer, et on la servira à partir de 22h dans la salle des fêtes.
Cette journée du vendredi 20 octobre n'est toujours pas terminée, et en fait elle a même commencé à 10h avec au château du Le Poète Cellard un séminaire à deux voix. Alors qu'est-ce que c'est?
Donc là, comme chaque année, on essaye d'intercaler une journée de séminaire, de réflexion, d'échange surtout. Donc ce n'est pas qu'une suite de conférenciers, mais on laisse une large place aux interventions et aux échanges avec le public. Et donc là, la thématique de cette année se situe plutôt autour le lien entre la culture réformée et l'idée européenne. Où on pourrait dire que si aujourd'hui, sur une ne serait-ce qu'une timide et pas garantie relance de l'idée européenne, si à partir d'aujourd'hui on remonte la rivière, de se dire à partir de où il y a les prémices de cette conscience, de cette éventualité de voir le continent comme une unité. Et forcément, à un moment donné, nous allons rencontrer l'imprimerie qui a permis que le livre bouge dans tous les pays, que les traductions soient efficaces et existent réellement. Nous allons rencontrer tout le mouvement des Lumières. Nous allons rencontrer les coalitions internationales, l'organisation des premiers couloirs humanitaires. Pas forcément de première tuerie en masse, mais au moins les couloirs humanitaires étaient à ce moment-là plutôt comme idée internationale, une nouvelle idée. Et puis la réforme et l'exil, une nouvelle approche de valeurs, peut-être une idée de démocratie. Donc à force de remonter, on tombe sur quelques notions qui frémissent autour d'un éventuel fondement de valeurs qui aujourd'hui, si ce n'est pas pour la Commission européenne, au moins pour le Conseil de l'Europe, est une bonne base de travail. Et c'est pour ça aussi que le chemin sur les pas des Huguenots est assez fier d'avoir été reconnu par le Conseil de l'Europe en tant qu'itinéraire culturel de l'Europe. Parce que là, il ne s'agit pas de fréquentation de chiffres, mais là, il s'agit de valeurs.
Là où je voudrais savoir un peu votre avis, c'est par rapport à cette notion de culture réformée. Qu'est-ce que vous voulez signifier dans ces deux mots?
Ne serait-ce que la réforme sur ses propositions et sur son désaccord avec l'Église catholique, finalement, elle aborde des choses qui parfois touchent la liturgie, parfois touchent la religion intrinsèque et les anciens livres, et parfois touchent l'opérationnalisation, parfois touchent des choses que tout le monde vit tous les jours. Ne serait-ce que, par exemple, que l'idée pour maintenir un pouvoir dans un petit nombre, l'idéal est d'installer des intermédiaires entre les textes et les participants, entre les textes et les croyants. Et de se dire, nous sommes des interprètes. Vous n'avez pas à avoir accès directement à la lecture, puisque nous sommes là. Et que du coup, nous sommes là sur une opérationnalisation, sur une organisation institutionnelle, donc l'Église avec le grand « E », qui dit, ben, nous, entre le texte et puis les ouailles, on va être l'intermédiaire, nous serons le médiateur. Ce qui nécessite, d'un côté, de la confiance, et puis de l'autre côté, la méfiance n'exclut pas le contrôle. Ben, le contrôle, il n'y était pas. Ce qui fait que quand même, au moment où nous parlons des indulgences, où finalement l'Église vend des petits espaces de paradis aux croyants, on poussait quand même le bouchon un tout petit peu plus loin et le peuple a fini par le voir. Donc dans les opérationnalisations, aussi dans l'accord entre ce qui est dit et ce qui est fait, où finalement le clergé, l'Église vivait dans l'opulence et le reste de la population, peut-être moins le Seigneur, mais il mangeait du chou et ça s'arrêtait là. Donc à un moment donné, à partir de là, il y a un doute qui s'installe. Deux, il y a l'idée que c'est peut-être pas comme ça que ça se construit. Et trois, parce que l'idée n'est pas de dire que là, il y avait des bons et des mauvais. Dans une guerre, il n'y a pas de bons et de mauvais, comme il n'y a pas de gagnants et de perdants. Ce n'est pas là que ça se joue, mais où à un moment donné, dans l'affrontement, ben globalement, même si ça ne s'est pas vu dès le départ, on voyait bien qu'il n'y aurait que des perdants. D'ailleurs, la monarchie a été perdante dans le coup, mais il n'y aurait que des perdants. Aujourd'hui, on appellerait ça au niveau du PIB, parce qu'un pays en guerre civile ne fait pas de bon commerce, ne fait pas de bonnes exportations, ne fait pas de bonnes importations. Donc, voit ses meilleurs membres quitter le territoire. Donc, tout ça, entre le doute, entre la contre-proposition, entre les textes, entre la littérature, et puis, de plus qu'il y a échange, parce qu'un exil ne se passe jamais que dans un sens. Il y a plein de gens qui partent, il y a des gens qui reviennent, il y en a d'autres qui reviennent que ceux qui sont partis. Donc ça crée un va-et-vient qui ne peut que être bénéfique pour le pays accueillant à un moment donné. Et Mme Merkel l'a essayé et elle en est sûrement convaincue. Mais dans le temps, le grand électeur de Berlin était déjà convaincu parce qu'il avait quand même accueilli plus de Huguenots que sa population. C'est une ville de Berlin qui bouge entre 7 et 8 000 habitants. On accueille 6 000 ou 7 000 de Français, c'est un choix. Donc du coup, ces échanges
internationaux,
les étudiants qui commencent à bouger, donc tout ça, ça donne quand même une autre sphère qui, même sans approche religieuse, serait déjà nouvelle, mais avec cette approche religieuse, induit encore quelques doutes, mais aussi des propositions. Et j'ai l'impression que c'est là que ça se joue, qu'à un moment donné, sur les valeurs, ben, que ce soit d'un angle ou d'un autre angle de vue, cette demande de démocratie, elle est quand même là.
Pour cette journée du 20 octobre, il y aura ensuite, donc ça c'est entre 10h et midi, hein, ce séminaire à deux voix.
10h midi, 14h-16h.
Oui. Et 14h-16h pour la suite, mais entre deux, donc un repas au château. Connaît-on le menu ?
Ah non, on ne connaît pas le menu du château.
Ce ne sera pas dans l'opulence quand même.
Ce sera un repas sobre avec des produits locaux, ça on peut l'assurer.
Voilà. Mais qu'il faut évidemment réserver.
Est-ce qu'il y a un art de vivre et culinaire protestant ?
En fait, c'est une question très intéressante. Je vous remercie de l'avoir posé. Mais en fait, on découvre la richesse de la gastronomie qu'on pourrait éventuellement appeler protestante, mais qu'on pourrait aussi appeler la gastronomie ou la cuisine du 17e. Donc, si on regarde cette gastronomie ici, au niveau du Dauphiné, on se retrouve avec une agriculture pas très riche, mais quand même un peu varié dans la mesure où si tout le monde ne mangeait pas les asperges de la plaine de Montélimar, au moins on les cultivait. Si ce n'était pas pour soi, au moins un autre se régalait. Donc il y avait une richesse de culture, ce qui fait qu'au moment où quand même, sur 19 millions d'habitants, 300 000 personnes quittent le territoire, finalement, après la révocation de l'édit de Nantes, pour aller en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, Afrique du Sud, en fait, partout. Ben, c'est des entrepreneurs. C'est le savoir et le savoir-faire qui part, dont les maraîchers. Il y a énormément de maraîchers qui partent. Et c'est là où je reviens à la question. Si globalement, la gastronomie, elle n'était pas plus riche qu'ailleurs parce que le picodon existait, mais il n'avait pas la haussée, et que finalement, le fromage de chèvre et la viande salée existaient, mais tout le monde n'en mangeait pas, que sur les vieilles, anciennes variétés de légumes, il y en avait même s'ils mangeaient du chou et du chou et du chou matin, midi et soir. Au moment où ils sont arrivés en Allemagne ou en Suisse, tout à coup, on découvre que là, le pays qui accueille, il se dit, mais en fait, en Suisse, une simple salade Batavia, c'est un détail, c'est un vrai détail, mais c'est les Huguenots qui ont amené la salade Batavia et qui ont enrichi, du coup, l'approche suisse de manger la salade. On se retrouve aujourd'hui avec un produit local très, très vanté et reconnu dans le Bade-Württemberg, donc le sud de l'Allemagne. C'est le pays d'origine de l'asperge. Ben non, parce que je viens de dire que ça vient de la plaine de Montélimar. Donc, c'est là où on voit que petit à petit, l'arrivée de ces Huguenots enrichit la cuisine locale. Et il y a une dame au nord de Marbourg. Marbourg qui est une ville universitaire, une université protestante. Une heure et demie en voiture du haut nord de Francfort, donc déjà bien le centre, qui a fait le collectage de toutes les nouvelles recettes que les Huguenots ont permis en arrivant là-haut. Et où du coup, on trouve un velouté pomme de terre, pas innocent, parce que la pomme de terre, elle n'était pas là depuis longtemps quand même. Pomme de terre, céleri, petite poire d'hiver. Et c'est même ici, dans le Diwa, à Châtillon-en-Diwa, qu'un restaurateur, un soir, il y a quelques années, avait proposé un menu entièrement inspiré par les travaux des recettes de cette dame, Madame Gombel. Donc on l'avait traduit et ce restaurateur avait préparé un repas qu'on avait goûté avec beaucoup. On était nombreux et c'était très bon. Après, c'est vrai qu'en matière de viande, ben, ils n'ont pas inventé le poulet, ils n'ont pas trimballé un poulet là-haut, ça existait avant, mais que peut-être ils ont donné une ouverture. Donc pas de spécificité, mais la cuisine 17e française a quand même été importée jusqu'à Berlin.
Bien. Intéressant.
Hein. Oui. Et puis, on va revenir à la veille, hein, parce qu'on détaille encore la programmation. Donc, le jeudi 19 octobre à Livron-sur-Drôme, il y aura à la salle Simone Signoret l'ouverture officielle hein, des rencontres. Donc, comment ça va se passer? Il y a monsieur le maire, il y aura personnalités?
Il va y avoir quelques personnalités, quelques élus. Et on va faire une ouverture officielle, effectivement. Hein, donc, il y aura quelques discours. Enfin, on va essayer qu'il soit le plus court possible. Et puis, ensuite, il y a inauguration d'une exposition qui est dans cette salle, Simone Signoret, le 19 octobre, qui est une exposition du Conseil de l'Europe, hein, qui s'intitule donc Itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Itinéraire au pluriel, il y en a 32. Et en fait, donc, sur les pas des Huguenots, fait partie de ces itinéraires culturels, ainsi que Saint-Jacques, par exemple, et quelques autres autour des mégalithes. Hein. Voilà, donc, il y a cette exposition qui sera là pour la journée. On la retrouvera d'ailleurs ensuite au château de Poët-Sellard. Et en fait, donc, il y a l'inauguration et la présentation de cette exposition. Et ensuite, une lecture musicale. Donc, on va trouver là un texte qui s'appelle « Un qui veut traverser », qui est un texte de Marc-Emmanuel Soriano et qui sera dit par Thierry Desbois et qui sera accompagné déjà donc, par Eric Langsfort et pour l'accompagnement musical de la lecture. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, toute inauguration, un petit verre de l'amitié. Donc cette inauguration est parfaitement ouverte, Hein, et je pense que la présentation de l'exposition sera intéressante et la lecture sera tout à fait passionnante.
Quel a été l'apport des Huguenots sur la musique du territoire, par exemple ? Est-ce que vous avez des traces de composition ou alors de chansons même ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ?
Ben, en fait, ça se situe directement en lien avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure, sur le brassage, sur l'échange. Mais en fait, la musique qui est le plus proche de la réforme, c'est la musique baroque. Et c'est pas étonnant que les grands maîtres de la musique baroque, parmi d'autres, mais se situent quand même très souvent sur une ligne qui est plus au nord. Et que ces musiciens-là étaient déjà, hormis d'être musiciens, comme d'ailleurs les peintres et les autres artistes qui bougeaient de cours en cours, ben, étaient déjà les ambassadeurs et parfois les médiateurs entre ces différents conflits de la religion. Mais il suffit de nommer Handel, sur l'approche baroque, on est en plein dans le temps où ça se bousculait et c'est probablement une thématique qu'on développera dans les années qui viennent, de se dire... Réforme et pédagogie peut être intéressant avec l'Académie de Die, mais aussi l'École moderne de Mainz et puis plein d'autres. Le hasard fait que sur le chemin international des Huguenots, nous retrouvons plein de projets et de modèles pédagogiques autres. Et puis après, la musique et la musique baroque, où c'est fragile, mais où il y a sûrement un nombre de gens qui seraient intéressés dans le futur de travailler autour de ça. Parce que c'est une très belle... c'est plus qu'une illustration.
Joël Miachon, nous continuons donc cette programmation avec le samedi 21 octobre dans les Vallées de la Scie à Gervannes. Il y aura un départ, hein, c'est ça ?
Oui, alors il y a... Ce sont deux itinéraires en autocar, en bus, qui l'un part de Livron et l'autre de Bordeaux. De l'office de tourisme chaque fois. Et il faut évidemment s'inscrire là aussi, parce que le nombre de places est forcément limité. Ces deux autobus feront un circuit qui passera par l'église de
Saint-Pierre.
Gigor, l'église Saint-Pierre de Gigor, le temple de Beaufort, le château de Montclar.
Gramont-Vacher à Montclar. Ouais.
Et en fait, ils se rencontreront forcément à Beaufort, où il y aura là un repas tiré du sac avec, qui aura lieu sur Beaufort. Voilà.
À la salle de fête, en présence de personnalités locales.
Voilà. Et en fait, ce détour par la vallée de la Gervanne est aussi lié à ce chemin qui... En quelque sorte, on inaugure cette année à partir de Livron pour ces protestants venant des Cévennes et qui traversaient au Pouzin et à Livron et qui ne traversaient pas plus bas. Et donc, qui se retrouvaient sur un chemin qui longeait donc le Vercors pour rejoindre l'autre chemin à Die. Et là, on est sur des lieux de passage voilà, dans cette vallée.
Alors ça sera pour la journée entre 9h et 17h30 et en soirée, Dieu le fit. Et ça sera à la Halle à partir de 20h30. Il y aura un duo parlant, théâtral et chantonnant. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les artistes ?
Ben donc là, autour d'une approche, les premiers et les derniers, c'est deux artistes. Une artiste féminine, de parole, de littérature, Claire Engade. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sud de la France et qui part très souvent depuis Lyon. Et puis, il y a l'artiste musicien connu et reconnu local, contrebassiste, compositeur, Étienne Roche, que beaucoup de monde connaissent pour tous les travaux qu'il a pu faire avec plein d'autres musiciens sur la Drôme, mais aussi parce qu'il a beaucoup écrit de compositions pour le Transexpress Circus. Donc c'est là le musicien, la rencontre entre ces deux personnes autour d'une thématique plutôt couloir que ligne a donné ce spectacle qui permet qu'il reste à l'intérieur d'un couloir, parce qu'on ne peut pas demander à un artiste qu'on tire le trait de la thématique et il doit marcher avec les deux pieds sur le trait. Ce n'est pas possible. Il faut lui laisser une liberté d'expression. Donc du coup, c'est un spectacle qui sort un peu d'une... qui est quasiment une création, qui pourrait sortir d'un chantier, qui pourrait sortir d'une résidence. Ce n'est pas un spectacle qui a tourné déjà 20, 30, 40, 50 fois. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle approche. Cette rencontre-là, même si les deux artistes se connaissent très bien, ça promet des choses, en tout cas inattendues, et dans tous les cas, de belle qualité. À la halle de Dieu le fit.
À la halle, et là, le spectacle est payant.
12 euros, hein, 12 on précise euros, aux voilà. Auditeurs. On peut peut-être les retrouver sur Internet, ces artistes, si on tape leur nom.
Oui. Entre Claire Engade et Étienne Roche, je pense qu'il y a pas mal de pages qui ressortiront.
Voilà, et ça, j'en mettrai quelques liens sur la page de notre radio. Et puis ensuite, nous allons continuer pour ces derniers jours avec le dimanche 22 octobre, toujours à Dieu le fit, donc à partir de 10h.
Cette clôture se fait à travers un concert, qui est un concert-spectacle qui s'intitule Martin Luther Gospel King, et qui aura lieu donc au Temple, et qui est une évocation donc de la réforme à travers le chant. Et le Gospel Ensemble est dirigé par Jean-Paul Fink, qui est aussi bien connu dans la région. Et en fait, c'est une façon de clore ces quatre jours et avec sans doute une très très bonne qualité musicale. Voilà, on est là dans de la musique et dans du spirituel, mais pas dans du culte, même si c'est un lieu au temple et un dimanche matin.
Et puis, autour de ça, il y aura en annexe une exposition sur Albert Schweitzer. On peut parler de lui un petit peu ?
Il est vrai que le musée du protestantisme dauphinois à Poitlaval avait déjà cette exposition pendant tout l'été. Au moment où nous abordons cette approche humaniste, au moment où nous abordons l'Europe, ça semblait presque une évidence que nous demandions à l'équipe du musée du protestantisme de Poitlaval de garder cette exposition autour d'Albert Schweitzer. Donc là, on est... c'est quasiment l'illustration de notre propos.
Oui.
Qu'in fine, il soit aussi un prix Nobel, oui. Mais il était déjà tout le reste. Qu'il était médecin, oui. Mais avant tout, il a toujours cherché ce lien entre les peuples, où il est allé très loin, où il n'a bougé pas qu'en Europe, mais où il est resté sur une ligne humaine qui n'a pas beaucoup bougé pendant toute sa vie. Il est resté parfaitement cohérent avec lui-même. Et là, il est en périphérie du programme parce que c'est une exposition qui nous était donnée, mais ça aurait pu être aussi une évocation à un moment donné, de personnages. Ça aurait très bien pu l'être parce que c'est... Il fait la synthèse.
Oui, prix Nobel de la paix en 1952. Donc, à 7 ans de la fin du grand conflit qui a ravagé l'Europe, c'est quand même un grand symbole.
On va aborder aussi un peu les nouvelles de compte, du compte, l'association qui s'occupe de cette organisation, donc des rencontres Voix d'Exil. Joël Miachon, vous êtes le président de cette association. Est-ce qu'on peut y opérer un parallèle avec ce que vous aviez organisé cette année avec les comptes autour de la migration, si je me rappelle.
Non, c'était... On n'était pas sur la migration.
C'est le voyage.
On était sur le voyage, plutôt.
Voilà. Sans bagages.
Voilà, sans bagage.
Et c'est pour ça que je
fais un lien. D'accord. Même si, effectivement, il y avait une soirée où on était assez proche des problèmes de la migration. Mais voilà, c'était... Alors, il n'y a pas de rapport direct. Le rapport, il est très simple. Il est que depuis la première édition de Voix d'Exil, nous avons toujours proposé, pendant plusieurs années, nous avons proposé une soirée de compte. Et donc, pendant un certain nombre d'années, nous étions partenaires de ce qui se passait, de cette manifestation. Il se trouve que nous sommes toujours partenaires, d'une façon ou d'une autre. Cette année, moins par un spectacle, mais nous sommes toujours partenaires. Mais en plus, pour des raisons d'organisation, voilà, tout simplement. Et nous sommes porteurs. Donc gestionnaire de cette manifestation qui aussi tourne autour du récit et de la narration. Hein, on l'a vu à plusieurs reprises. Hein, on est et les nouvelles du conte depuis le début de la création du festival. Hein, donc on va vers l'an passé vers la 30e édition. Et c'est un festival de la narration qui n'a jamais exclu différentes formes de narration. Alors le conte prioritairement, mais il y en a d'autres.
Dont la lecture à voix haute.
Dont la lecture à voix haute qui est présente ici.
Voilà, et donc nous allons bientôt terminer cette émission. On pourrait rappeler quand même aux auditeurs, vous avez certainement un site internet concernant les voies d'exil.
Oui.
Donc le site internet, le mieux est d'aller sur le www.surlespasdeshuguenots.eu où donc dans les actualités, il y a une page qui ramène directement sur le programme. Et sinon, le programme est aussi disponible. Si les réservations ne sont pas prises à l'Office de tourisme de Die, en tout cas, les brochures y sont présentes.
Et donc, nous invitons les auditeurs à aller se rendre sur les offices de tourisme respectifs des lieux. Voilà, pour les réservations et aussi téléphoner, je pense.
Aux offices de tourisme.
Aux offices de tourisme, toujours, oui. Et donc, nous terminons l'émission. Et donc, je remercie Joël Miachon et Johannes Melsen d'être venus nous donner un peu de temps. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Au revoir, merci.
Merci, au revoir.